Donc une description qui nous met devant la réalité des choses belles et bonnes qui se côtoient avec celles qui sont dures et difficiles. Un conte de Deville, c'était le meilleur des temps, c'était le pire. Le constat de toute époque depuis la chute de nos premiers parents, en fait, est à double tranchant, puisque l'être humain est en lui-même porteur de l'image de Dieu et pécheur par nature. Nous voilà en quête de découvrir l'issue des semences dont parlent les premiers chapitres du récit biblique. Cette semence est liée à la descendance de la première femme et à la promesse d'espérance et de salut donnée dans le jardin d'Éden. Le fruit de cette semence verra le jour, mais sans qu'il n'y ait lutte avec un autre type de semence dont le fruit est vraiment amer. Lisons un premier extrait de l'histoire de Noé dans le chapitre 6 de Genèse. À partir de verset 5, nous allons lire ce texte et avant de lire, je vais prier. Seigneur Dieu, nous dépendons de ton esprit pour nous éclairer sur ta parole. Merci de nous éclairer afin que nous puissions vraiment comprendre l'intention que tu y as mis, Seigneur, afin que nous soyons transformés par cette parole qui entre dans nos cœurs et qui réordonne tout ce qui ne va pas. Merci de cette parole de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ. Merci de nous donner vraiment des yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Par ta grâce et selon, Seigneur, notre désir de te voir glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà le premier texte, chapitre 6 de Genèse, à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Shem et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche leur aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, de tout ce qui vit. De toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture, à toi et à eux. » C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Voilà, jusqu'à là, la lecture du texte biblique. Et nous allons voir, en fait, qu'il y a un fruit regrettable qui se produit. Un fruit regrettable d'une semence amère. S'il fallait décrire l'époque de Noé dans une phrase, voici la phrase déjà ancrée dans le récit de la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quel constat! Ce constat n'est guère brillant pour l'homme. Et si Dieu se prononçait de la sorte de nos jours, quel serait son constat? Qu'est-ce que vous pensez? Voici quelques propositions que je vous soumets. Voilà, c'est Dieu qui parle, ce sont des propositions. Bien que l'homme ne soit pas parfait, il a quand même fait pas mal de progrès et je le félicite. Ou bien, je vois que l'être humain, bien que désireux de s'améliorer, a de la peine d'y arriver. Ça va se régler avec le temps. Ou bien encore, si jamais cette pauvre espèce comprend les hauteurs qu'elle pourrait atteindre, elle se focalisera moins sur les choses qui me déplaisent. Ces propositions vous semblent-ils justes? Non. Je suis de l'avis qu'elles sonnent fausses, justement. Pourtant, c'est le genre de réponse même religieuse que l'on donne face au côté moins flatteur de l'être humain. Au temps de Noé, le constat est rude. Dieu regretta d'avoir fait l'homme et fut affligé en son cœur. Le fruit de la semence de la plupart des êtres humains était amer, voire même violent. Un petit exemple suffira en regardant le comportement d'un homme qui s'appelait Lémec. Celui-là fait partie de la lignée de Caïn, je crois que c'est comme cela qu'on prononce son nom, je me trompe tout le temps, la lignée de Caïn, le septième dans sa descendance. Vous savez, la Bible trace la destinée de deux humanités, celle qui s'oppose à Dieu et celle qui se fie à lui. La lignée de Caïn ne s'appellera jamais ami de Dieu. Lisons dans la Genèse encore, chapitre 4, verset 19 au verset 24, pour avoir un petit aperçu du comportement d'un homme de cette lignée de Caïn qui s'appelle Lémec. Chapitre 4, à partir de verset 19. Lémec prit deux femmes, l'une s'appela Ada, l'autre Sila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. De son côté, Sila mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Voici les versets clés. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez-moi, femme de Lémec. Prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Quand même un comportement assez rude. La descendance de Caïn s'avère faite dans le même moule que lui-même, Caïn, le premier meurtre. Face à ce cadet, c'est-à-dire Lémec, dont il porte un regard de mépris, il choisit la violence et le meurtre pour régler ses affaires. En plus, il en est fier. qu'il dérive et si proche des origines de la race, de l'espèce. Ce fruit amer semble être de plus en plus répandu, surtout que le constat que Dieu fait est que la méchanceté des hommes qui étaient grands sur la terre. Le portrait de Lémec n'est que celui de tout être humain livré à ses propres impulsions sans référence au vrai et seul Dieu. En fin de compte, notre monde à nous montre toujours des traces d'une descendance caractérisée par la violence, n'est-ce pas? Le dernier siècle a vu la perte des centaines de milliers de vies dues à la violence qui subsiste dans le cœur humain malgré ses prétendus progrès. Nous serons toujours en proie de cette violence tant que l'homme se confie en son propre pouvoir. Les exemples ne manquent pas, même de nos jours. Le portrait de ces textes que ces textes nous laissent est sombre, mais la lueur de l'image de Dieu en l'homme subsiste. Les deux versets qui suivent cette terrible histoire de Lémec nous disent ceci. Je vous invite à les lire à partir du verset 25 du chapitre 4. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel, ou à invoquer le nom de l'Éternel. Le portrait que ces textes nous laissent est sombre, mais ces deux versets donnent cette lueur d'espoir. Le prénom Enoch veut dire homme, tout simplement. Il y a quelques mots pour homme dans la langue hébreu, Adam, en fait, Ish et Enoch. Et Enoch veut dire homme, mais dans une manière plus générale. C'est un mot qui sert de rappel de l'homme et faible état de l'homme par rapport à son créateur tout-puissant. C'est justement parce que l'homme ne veut pas reconnaître son vrai état qu'il ne voit pas l'utilité de reconnaître Dieu. Mais lorsque l'on se rappelle son vrai état devant Dieu, on est bien placé pour invoquer son nom. Voici la semence, la femme qui fait sa toute petite percée dans un monde cruel et violent qui court au jugement. Voici la lueur d'une humanité qui se fie à Dieu et dont Dieu témoigne une bienveillance extraordinaire. Parlons d'une semence meilleure. Une semence amère et maintenant une semence meilleure. Vous savez, on est en hiver maintenant, mais j'aime beaucoup la saison d'automne. Pas seulement pour les couleurs des feuilles, mais aussi pour la vérité de la lumière. Les contrastes en cette période sont remarquable. Ce qui m'épate le plus, c'est de voir des rayons de soleil qui font irruption au travers des nuages gris pour y mettre de la couleur et de la luminosité. Et lorsque le soleil se couche sur l'horizon, se pointant à travers une étendue réduite du ciel, au-dessus duquel il y a une couche épaisse de nuages, c'est un véritable festin coloré pour les yeux. Et il n'y a qu'admirer et apprécier. Si les versets 5 à 7 dans le chapitre 6 étaient le nuage sombre dans ce tableau peint par le texte, le verset 8 et 9 seraient l'éclat de lumière qui inspire l'espoir et qui remonte l'esprit. Malgré l'état déchu de l'être humain et le regret que cela suscite, Dieu reste engagé et se souvient de sa promesse, car Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une parole d'espérance. Le seul homme qui était juste et intègre dans sa génération sera au centre de son projet, le projet de Dieu, pour le jugement et pour le salut. La seule bonne semence qui restera sera gardée et en quelque sorte replantée dans un sol purifié après le déluge. serait important de retourner en arrière pour quelques instants dans l'histoire de Noé, pour se situer mieux. Nous allons lire dans le chapitre 5 au verset 25 l'histoire d'un autre homme, un autre Lémec. Chapitre 5, verset 25. À l'âge de 187 ans, Methuselah eut pour fils Lémec. Methuselah vécut 782 ans après la naissance de Lémec et eut des fils et des filles. Methuselah vécut en tout 969 ans, puis mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce seul prononce à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis y mourut. Vous voyez qu'il s'agit d'un autre Lémec. Il y a deux Lémecs dans cette histoire, dans ce récit de la Genèse, au tout début des données bibliques. Nous avons rencontré Lémec numéro 1, je l'appelle Lémec numéro 1, descendant de Caïn et représentant de l'humanité éloignée de Dieu. Voici Lémec numéro 2, un autre représentant, mais cette fois-ci de l'humanité qui marche avec Dieu. En contraste avec Lémec numéro 1, on rencontre Lémec numéro 2, et en quelques versets, on apprend beaucoup, beaucoup sur la lignée qui se fie à Dieu. Si Noé marchait avec Dieu, il a le modèle de son père, qui est d'ailleurs le père, le petit-fils d'Enoch. Vous vous souvenez d'Enoch? Celui qui marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Voici cette autre lignée qui se fit à Dieu. Cet arrière-grand-père, Enoch, de Noé, laisse un exemple bienfaisant qui avait un impact sur son fils et sur son petit-fils. Voici un aperçu de l'importance d'une piété transmise de génération en génération. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous transmettons à nos enfants une soif qui pourrait se traduire en leur propre choix de marcher avec Dieu à leur tour. Il n'y aura jamais un plus bel héritage à leur laisser. Enoch, le septième dans la lignée de Seth, a son antitype en Lémec numéro 1, le septième dans la lignée de Caïn. C'est encore une vitrine au travers de laquelle nous voyons le sort des deux humanités, le meilleur et le pire. Revenons au père de Noé, Lémec numéro 2. On constate qu'il est issu d'un héritage spirituel solide. On en voit la preuve par son souci et son espoir manifesté par un geste tangible, à savoir l'appellation de son fils. Son souci est lié à un sol maudit qui procure de la peine. Son espoir est lié à une possible intervention de Dieu pour la consoler, cette peine. Cela dit beaucoup sur la foi de Lémec numéro 2. Il est sûr de la nature bienveillante de Dieu, sûr de sa grâce et de sa promesse à la femme. Peut-être serait-il de sa descendance qui viendrait le soulagement qui anéantirait la malédiction qui marque le sol sur lequel il met pied. Il monte cette foi en nommant son fils. Noé vient du mot qui veut dire repos. Repos. Repos de la peine qui garde l'humanité d'un épanouissement recherché. Voici qu'est-ce qui est dans l'esprit du père de Noé, Lémec numéro 2. Mais le repos souhaité ne verra pas le jour jusqu'à ce que Dieu intervienne pour donner fin à une violence qui aurait bien tout détruire. Remarquez bien, pour qu'il y ait repos, justice doit être faite. si l'attitude de la plupart était comme ce Lémèque numéro 1, la fin meurtrière de l'histoire humaine serait une simple question de temps. Dieu ne reste pas indifférent. Il juge et il fait grâce. Bien que la comparaison ne soit pas idéale, j'espère que vous allez me témoigner d'une indulgence quant à cette illustration. Vous savez ce que font ceux qui ont à voir avec des animaux blessés sans espoir d'être guéris. On les abat pour qu'ils ne souffrent plus, n'est-ce pas? C'est un acte de compassion envers une victime souffrante. Je vous ai dit que la comparaison peut-être n'est pas idéale, mais je le fais quand même. Je me demande si Dieu, voyant la nature désespérée de la race qui s'éloignait de plus en plus de lui et du bien, décida d'en faire quelque chose pour que tout ne soit pas perdu. En fin de compte, il n'y est cité qu'un seul être sur la terre, qu'un seul être humain qui marchait avec Dieu, à savoir Noé, le seul. La semence promise dans le jardin reste intacte. Et Dieu va tout faire pour qu'elle ne disparaisse pas. Rien ne l'empêchera de montrer sa compassion pour une race déchue. Dieu fait le redoutable choix de détruire pour rétablir. Le déluge qui suit est à la fois une preuve de sa justice, de sa compassion et de sa fidélité. Justice quant à une violence déchaînée, compassion envers une race qui court à sa perte et fidélité à sa promesse d'envoyer un sauveur, le sauveur. Quelle que soit la hauteur des eaux qui sont survenues sur toute la terre, l'espérance ne coule pas. Une espérance insubmersible. Parlons de cette espérance-là. Vous connaissez tous le Titanic, un paquebot de luxe conçu de ne jamais faire naufrage, et ce paquebot a coulé lors de son voyage inaugural. Heureusement, c'est Dieu lui-même qui a conçu l'arche de Noé, parce que seul Dieu peut concevoir un moyen d'être abrité de son terrible jugement. Le Dieu qui juge ne peut jamais être séparé du Dieu qui sauve. Dieu a conçu le déluge et l'arche, et là où les deux se rencontrent, on voit la cohérence d'un Dieu parfaitement intègre. C'est justement à cette croisée de jugement et de grâce où son projet devient, même là au tout début de cette histoire, de ce récit, plus clair. Dieu conçoit l'arche comme abri de son jugement pour sauver ceux qui se confient en lui. Dieu conçoit l'arche aussi pour mettre à l'abri tous ceux qui restaient bons et qui doivent perdurer puisque c'est bon. L'homme fait en son image doit perdurer car cette image lui est chère, c'est-à-dire à Dieu. Les animaux doivent aussi perdurer parce qu'ils ne sont en aucun sens responsables du jugement qui tombe. Dieu conçoit un plan pour sauver un monde qu'il a créé bon et qui était en train de s'autodétruire. Beaucoup lisent l'Ancien Testament en déduisant que le Dieu qui y figure est un Dieu en colère. Ils préfèrent le Dieu du Nouveau Testament qui leur semble être plus doux. Mais cette lecture n'est pas juste et cette histoire en est la preuve. Cette histoire de Noé. L'acte de Dieu n'est pas un acte poussé par la colère. Remarquez bien, selon le texte, il est suscité par le regret. Dieu voit que l'histoire de l'être humain dans son état déchu n'aboutirait qu'au malheur sur malheur, jusqu'à sa destruction totale. Un père ne tire jamais du plaisir à châtier son enfant, mais le fait pour son bien. À plus forte raison, Dieu, qui est parfait, décide d'intervenir pour le bien, de tout ce qu'il a créé. La preuve, c'est l'arche, qui est conçue pour garder tout ce qui reste bon, et cela pour un nouveau départ. Si vous avez jamais souhaité pouvoir recommencer votre vie à zéro pour la rétablir, vous êtes bien capable de comprendre cette histoire dans une optique tout à fait positive. En fait, si cette histoire est là, elle sert de garant de la patience et de la compassion de Dieu à l'égard de toute humanité, pas seulement pour qu'elle ne se noie pas, mais pour qu'elle trouve une espérance meilleure. Une espérance meilleure. Je viens de vous dire que c'est à la croisée du jugement et de la grâce où le projet de Dieu devient encore plus clair. Maintenant, je m'explique. Dans cette histoire du déluge, tout est en jeu. Tout est en jeu, le sort de l'humanité aussi bien que le monde qui l'entoure. La seule espérance pour l'avenir reste dans les mains de Dieu et il choisit de faire grâce et tenir promesse en faisant tout pour que la seule semence d'espoir qui reste ne disparaisse pas. C'est justement par cette semence que l'histoire du malheur humain va être redressée lorsque la semence de la femme écrasera celle du malin. La rencontre entre l'arche et le déluge représente un carrefour clé pour l'humanité. Là où le jugement de Dieu s'abat pour détruire se trouve un refuge pour ceux qu'il a choisi de sauver. C'est le rendez-vous par excellence du jugement et de la grâce de Dieu. C'est là, à ce carrefour, où l'essence de la nécessité de la croix commence à être compréhensible dès l'époque de Noé. Cette arche est faite de bois, tout comme la croix où Jésus est mort. Les deux sont soumises au plein courroux de Dieu, en étant toutes les deux élevées au-dessus de la surface de la terre. Et toutes deux réussissent à protéger sans faille ceux qu'elles comptent sauver. Voici le salut de notre Dieu. Vous savez de quelle façon nous sommes décrits lorsque nous sommes croyants? Nous sommes décrits comme étant comment lorsque nous sommes croyants? En Christ, nous sommes appelés ceux et celles qui sont en Christ. Tout comme l'arche, nous entrons pour être en lui. Et dès que nous franchissons le seuil de la porte d'entrée, nous sommes protégés et puis amenés à mettre pied sur un sol renouvelé pour un nouveau départ, comme nouvelle création. C'est intéressant de voir comment Noé marque ce nouveau départ. Il le fait, on le lit au chapitre 8, verset 20 de Genèse. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et l'offrit des holocaustes sur l'autel. Il marque ce nouveau départ par un sacrifice. Lorsque Dieu nous laisse et puis nous en arrivons à la fin de ce message. Lorsque Dieu nous laisse sortir de l'arche qui nous a gardés de son jugement, nous sommes libres aussi, comme Noé, d'offrir un sacrifice à la fois vivant et pur, comme a fait Noé. Par les compassions de Dieu, saint Paul nous dit, nous sommes exhortés à faire de même en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Une dernière chose à contempler avant de conclure, ce sont les paroles de Jésus lui-même, qui sert de cette histoire de Noé, du déluge, pour nous avertir. Il dit ceci, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et puis, Pierre l'apôtre ajoute que les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour de jugement et de la perdition des impies. Bien que Jésus soit venu la première fois comme sauveur, la deuxième fois, il reviendra comme juge. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans son arche, c'est-à-dire en lui, qu'ils sachent sa promesse. Celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Venez donc, bien avant que cette porte ne ferme, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné la persévérance dans cette écoute de ce récit. Seigneur, merci de nous l'appliquer, de l'appliquer à nos cœurs, à nos esprits, afin que nous puissions vraiment être transformés par cette réalité annoncée dans cette parole de Noé. Seigneur, merci de ce que tu as agi avec grâce et avec le ardent désir de sauver l'humanité à travers ta promesse qui était dans la personne de Noé et qui, au fur et à mesure des années, des siècles, est venue dans la personne de Jésus-Christ, la semence promise dans le jardin qui nous sauve et qui écrase toute l'œuvre du diable. Merci Seigneur de cette espérance que nous avons. Aide-nous à vivre dans cette espérance cette semaine et à partager cette espérance tout autour de nous pour que ce monde qui court à sa perte puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui agit avec grâce et avec jugement. Et c'est à la croix où nous voyons cela de manière vraiment claire et nette. Seigneur, que ta grâce soit sur nous pour que nous puissions annoncer cette nouvelle et pour qu'il y ait ceux et celles qui y répondent positivement pour ta gloire et pour leur bien. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen.